Dans vos livres, la prophétie de Malachie, ce qui est donc le dernier livre de l'Ancien Testament. Si vous pouvez trouver Matthieu, bien vous reculez de quelques pages. Nous sommes heureux d'avoir quelques personnes de la ville sainte de Denis avec nous. Et puis aussi des personnes qui viennent aussi de plus loin. Il y a Anne aussi de Pessac, des amis de longue date de Pessac, et Camille aussi de l'église près de Bordeaux à Pessac. Vous pouvez les accueillir aussi après. Voilà, donc nous sommes en Malachie, le premier chapitre, et la deuxième partie de ce chapitre. Le titre du message, ce qui est décrit dans ces versets, c'est une adoration à contre-cœur. Alors je vous invite de suivre donc la parole de Dieu, on va la lire avant de la prêcher. Malachie chapitre 1 et verset 6. Dieu parle, il va nous dire, je crois, 11 fois dans ces versets que c'est lui qui parle. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En disant, la table de l'Éternel est méprisable, peut-être méprisée. Verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je agréer de vos mains? Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, ce texte, comme je viens de lire, est un texte qui décrit une adoration à contre-cœur. Alors, il faut bien comprendre ce mot contre-cœur. C'est-à-dire d'une façon qui est contraire au désir du cœur. On fait quelque chose à contre-cœur, on le fait malgré soi-même. On le fait contre son gré. On le fait parfois de mauvais cœur, on dit. Ou à regret. C'est l'antonyme, c'est le contraire de faire quelque chose délibérément, ou spontanément, ou volontairement, ou de bon cœur, ou de plein gré, ou de gaieté de cœur. Alors, par introduction, je veux qu'on note que le problème ici dans ce texte n'est pas un manque d'activité spirituelle. ce n'est pas un manque de sacrifice. En fait, il semble que les sacrifices battent leur plein. Il y a plein de sacrifices. Les gens viennent au temple comme il faut. Et donc, il n'y a pas en vue ici un manque d'activité religieuse. Le problème ne se trouve pas dans le manque de faire. Ce n'est pas ça le problème ici. Ce n'est pas dans le manque de faire, mais c'est dans la manière de faire. Alors, je m'arrête une seconde pour nous interpeller un peu sur ce point. Si vous êtes au culte ce matin, c'est que vous n'êtes pas ailleurs, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas au lit, au ski ou à Miami. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là, vous êtes au culte. On ne peut pas donc reprocher votre absence. Vous y êtes, c'est très bien, bravo. Ok, ça c'est pas le problème pour ceux qui sont là. Le problème donc n'est pas dans le manque de faire, mais qu'en est-il de la manière de faire? Est-ce que vous êtes présent spontanément, volontairement, de bon cœur, de plein gré, ou est-ce que vous êtes là de contre-cœur, à contre-cœur? Ou même les chants, est-ce que vous avez chanté ce matin, comme on dit, de tout notre cœur? On a chanté de tout mon être. Alors c'est là la chance. Et Malachi s'adresse ici non pas à des païens, pas des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais à des personnes religieuses. Et de plus, ce sont des personnes intimement engagées dans le ministère. À qui parle-t-il? C'est une des questions que j'ai posées là aux enfants sur leur feuille. Je veux que vous le trouviez. Regardez le verset 7. Même les enfants peuvent trouver. Il dit, vous offrez sur mon autel. Donc, c'est des personnes qui offrent. Font quelque chose, qui ont quelque chose à faire avec l'autel. Verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête, donc, ils ont charge des sacrifices. Verset 10, il dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Donc c'est eux qui vont allumer normalement le feu pour brûler ces sacrifices. Alors c'est qui fait toutes ces choses? C'est les prêtres. N'est-ce pas? C'est les prêtres qui font ces choses. Je parle aux prêtres qui sont engagés dans le ministère du temple. Regardez vers la fin du verset 6. Il dit l'Éternel des armées, à vous, et puis il leur donne le nom, sacrificateur. Donc il parle à des gens très religieux, à des personnes qui sont engagées dans le ministère, qui sont fidèles, on va dire, au culte. Et c'est à eux que cette prophétie est adressée. Alors, nous allons voir plusieurs choses. La première chose que nous voulons voir, c'est l'accusation que fait l'Éternel aux adorateurs. Quelle est l'accusation que l'Éternel porte à ces gens? Et ça vient en trois temps. Je vous donne en trois parties, parce que j'ai trouvé que c'était décrit un peu comme cela. D'abord, il leur reproche un manque de respect pour Dieu. Un manque de respect pour Dieu. Et la façon qu'il le fait, c'est en démontrant que les normes qu'on respecte dans les relations humaines ne sont pas observées dans sa relation avec Dieu. Avez-vous vu cela? Vous avez des normes dans vos relations humaines que vous ne respectez pas dans votre relation avec moi, dit l'Éternel des armées. Regardez le verset 6. Un fils honore son père. Un serviteur, son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc il parle des fils avec leur père, il parle des serviteurs avec leur maître. Il y a encore une relation dont il parle ici. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est un peu plus tard. C'est un troisième domaine, on peut dire. C'est verset 8, où il dit, bon, prenez ce que vous m'offrez et allez voir qui? Votre gouverneur, pour voir s'il sera content avec vous. Amenez ça à l'Élysée. Donc il y a ces trois domaines. On peut dire qu'il y a le domaine social, c'est le fils et son père, et on peut inclure aussi les amis, tout ce domaine social dans lequel on vit. Et on parlait hier avec Liliana des lois culturelles. Parfois il y a des normes culturelles qui sont plus puissantes que des lois que donne le gouvernement et des choses qui sont attendues de la part des enfants, de la part de la belle-fille, ou du, etc., vers la belle-mère, vers la mère. Et on n'ose pas, en fait, ça dépend de la culture, hein, mais on n'ose pas contredire quelqu'un parce qu'on est dans une certaine relation. Ils sont plus âgés, ou c'est l'oncle, ou c'est le grand cousin, ou c'est le grand frère, ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez de quoi je parle. Donc il y a ce domaine social, et puis il y a le domaine économique. Il y a le serviteur et son maître, on peut dire, hein, vous et votre patron. Et puis dans le verset 8, on a le domaine quoi? Pas social, ni économique, mais le domaine politique. Hein, avec le gouverneur. Le domaine de politique. Donc, que ce soit à la maison, au travail, ou dans le domaine politique, dans tous ces domaines qui reflètent d'une façon ou d'une autre la relation entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, moi je suis un père, moi je suis un maître, moi je suis un gouverneur. Donc toutes ces relations humaines que nous avons reflètent un peu notre relation avec Dieu, et les hommes sont mieux traités que Dieu. Les pères reçoivent plus de respect, les maîtres reçoivent plus de crainte, et les gouverneurs reçoivent plus de considération que Dieu. Albert a parlé il y a quelques semaines du fait qu'on met souvent plus d'efforts à arriver au boulot à l'heure qu'au culte. Et c'est exactement ce que Dieu dit ici. Vous avez plus de considération pour votre famille, pour votre patron, pour la police, que pour moi. Et nous savons, quand on lit les évangiles, que Jésus a exigé aussi une loyauté envers lui qui dépassait toute autre relation, n'est-ce pas? Il a dit, compère à moi, même votre mari, votre femme, votre enfant, votre père, vous devez les haïr, comparé à l'amour que vous avez envers moi. Donc à nous de comparer notre respect pour Dieu et de comparer aux efforts que nous faisions dans ces autres domaines. Alors quelle est leur réaction à cela? Est-ce qu'ils disent, lève la main, oui, c'est exactement ça, c'est nous. Ça fait mouche, voilà, on confesse, voilà, nous sommes coupables. Regardez ce qu'ils disent, regardez la fin du verset 6. Eux, ils disent tout de suite, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez la deuxième ligne du verset 7. Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Leur réaction, c'est, comment ça? Comment ça? Je suis choqué, tu parles de moi là? Et on voit qu'ils n'acceptent pas cette accusation, ils se sentent pas coupables. Ils vont même exiger de Dieu des preuves en disant, ben, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous profané? Prouve-le, Dieu, on n'est pas convaincu. Et dans sa grâce, l'Éternel le prouve. Et notez comment il le prouve, qu'il manque de respect pour Dieu et de la crainte pour Dieu. Il dit, je reprends la verset 6, il dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et lui, verset 7, ben, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Ben, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable, ou peut-être méprisée. Donc la preuve de leur manque de respect et de leur crainte pour Dieu se voit dans l'attitude qu'ils ont vers le ministère de Dieu, envers la table du Seigneur. Et quand nous lisons ici la table de l'Éternel, c'est un synonyme pour l'autel. L'autel où on offrait ses sacrifices. Donc, selon Dieu, mépriser le système sacrificiel, le système de sacrifice, n'est rien d'autre que mépriser Dieu lui-même. On méprise le culte de Dieu, on méprise Dieu. C'est ça ce que Dieu est en train de dire. Et c'est pour ça que j'ai mis comme deuxième point cette accusation qui se fait en trois parties. Il y a un manque de respect pour Dieu, mais qui est prouvé par un manque d'estime pour le culte de l'Éternel. Alors le culte, selon le dictionnaire, c'est un hommage rendu à Dieu. Et par extension, le mot parle de l'ensemble des formes extérieures, des manifestations collectives par lesquelles l'homme honore Dieu. Et pour le peuple de Dieu à cette époque, le temple, avec son système de sacrifice, était le centre de leur adoration, c'était le centre de leur culte qui rendait à Dieu. Et regardez donc encore le texte pour voir ce qu'il disait de cette adoration, de ce culte rendu à Dieu. Regardez la fin du verset 7. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Ben, c'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. J'ai trouvé dans d'autres traductions, c'est d'autres façons de lire. Il y a une tradition qui dit, c'est en traitant mon autel avec désinvolture, cette attitude. Une autre traduction le rend ainsi, c'est en disant l'autel du Seigneur est sans importance. Ou encore une autre, la table du Seigneur est dérisoire. Vous avez les différentes façons que ces traducteurs essayent de traduire cette idée, cet esprit de nonchalance, je crois que c'est ce qui a été dit il y a 15 jours. Il y a un manque d'estime pour le culte de l'Éternel. Le synonyme d'estime serait il y a manque de considération, de soin, de révérence, ou d'hommage, ou de hommage, ou d'honneur. Et il y a à sa place, qu'est-ce qu'il y a à sa place? Un manque de respect, et quelle est l'attitude qu'ils ont? Regardez le verset 13. Vous dites, quelle fatigue. À sa place, c'est un ennui. Un ennui. En d'autres traductions, pour le verset 13, vous dites même « Quelle corvée !» Une autre traduction dit « Quel travail décourageant !» Une autre traduction vous dit « Quel ennui !» Le Derby dit « Voilà quel ennui !» et vous soufflez dessus. C'est un ennui pour eux. Un ennui, c'est ce sentiment de lassitude qui coïncide avec une impression plus ou moins profonde de vide, d'inutilité, qui range l'âme. Donc pour eux, le culte de Dieu est une fatigue, c'est une corvée, c'est un travail décourageant, c'est un ennui. Alors, qu'est-ce que nous appelons notre réunion du dimanche matin? On appelle le culte, hein, le culte. Le culte d'adoration, c'est de redire la même chose. Un culte, c'est une adoration offerte à Dieu. Alors, le culte pour vous, le dimanche matin, est-ce un ennui, une corvée? Sortez-vous du culte avec un sentiment de lassitude, avec cette impression plus ou moins profonde de vide, d'inutilité? Et c'est pour ça que les gens ne viennent pas, ils disent, mais ça ne vaut pas la peine. Il ferait mieux de dormir que de venir au culte. Et peut-être vous dites, ben, c'est le problème avec le culte. Ce n'est pas assez entraînant, inspirant, motivant. Ça ne suit pas l'évolution des temps, pas assez branché, etc. J'ai connu une église qui disait, sur leur site, le 11e commandement, c'est... Tu ne t'ennuieras pas à l'église. Et puis, elle faisait tout pour empêcher les gens de s'ennuyer. Mais la question se pose, où est la faute dans notre texte? À qui est la faute ici? Le problème est-il avec la table du Seigneur? Faut-il changer la façon de faire les sacrifices? Faut-il changer le culte? Parce que c'est exactement ce que disent beaucoup de personnes qui réclament une adoration ou un culte un peu au goût du jour. Il faut changer le culte. Pour changer, ils disent, il faut changer l'adoration à Dieu. Ou faut-il plutôt, non pas changer l'adoration, mais l'adorateur? Non pas le culte, mais le croyant. Alors, l'accusation que fait l'Éternel ici, c'est un manque de respect pour Dieu. Et ce manque de respect est prouvé par un manque d'estime pour le culte de l'Éternel. Votre respect pour Dieu se démontre dans l'attention que vous donnez au culte, rendu à Dieu. On ne peut pas dire, j'aime Jésus, mais pas sa femme. Pas son épouse, qui est l'Église. Il ne faut pas dire j'aime Jésus, mais pas son épouse. On ne peut pas dire j'aime Dieu de tout mon cœur, mais je m'ennuie à l'église. Notre attitude envers le culte du Seigneur démontre notre attitude envers Dieu. Et donc c'est à chacun de nous de s'examiner soi-même, comme dit la Bible. C'est à nous de s'examiner devant ce texte. Alors jusqu'alors nous avons parlé d'attitude, mais Dieu va aller plus loin. Il va parler de pratique. Il va dire que leur manque d'estime pour le culte de l'Éternel est démontré par un manque de soumission aux ordonnances de l'Éternel. Ce n'est pas une question seulement le fait qu'ils ont une attitude de latitude. Ils ne font plus attention à obéir la loi de l'Éternel. Et là nous voyons aussi quelque chose qui est presque toujours vrai, et c'est qu'un manque de respect pour Dieu se démontre toujours par une désinvolture, une légèreté, ou un laisser-aller face aux ordonnances de l'Éternel. Hein, si on n'a pas de respect pour Dieu, on ne va pas prêter beaucoup d'attention aux ordonnances de l'Éternel. J'ai entendu des pasteurs chevronnés qui ont dit, quand on leur a posé une question sur un certain passage ou doctrine de la Bible, « Vous savez, j'ai jamais eu le temps d'étudier ce passage. » Alors, je m'accuse moi-même en disant cela. Mais un manque de respect pour Dieu se démontre toujours par une désinvolture ou une légèreté face aux ordonnances de l'Éternel. Regardez ce que font ces sacrificateurs. Regardez le verset 7. « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Regardez le verset 8. « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un fier, n'est-ce pas mal? Regardez le milieu du verset 13. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme. Ce sont les offrandes que vous faites. Regardez le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Alors, ce que faisaient les prêtres est assez facile à comprendre. Ils ont, si vous voulez, ils ont baissé le standard de ce qui était acceptable. Ils ont arrêté d'exiger qu'on ne donne à Dieu que le meilleur des bêtes en sacrifice. Alors, pourquoi sacrifier le meilleur quand on en avait besoin? D'habitude, quand on faisait un sacrifice à l'Éternel, on le tuait, bien sûr, après on le mangeait. Donc, pourquoi tuer et manger là devant l'Éternel la meilleure de nos bêtes? Vous pouvez dire, bon, les temps ont changé, il faut s'accommoder. Les gens ne vont plus venir au temple si on rejette leurs offrandes. Ça va alors les dégoûter. On ne peut plus exiger que les gens soient engagés à 100% pour le Seigneur. Les gens vont dire que nous sommes trop stricts. Ils ne vont plus venir au culte. On va donc les permettre de vivre comme le monde, avec les valeurs du monde. Tout en leur rassurant qu'ils sont toujours en bonne relation avec le Seigneur. Comme ça, ils vont se sentir bien, sans pour autant sacrifier ce qu'ils chérissent le plus. C'est ça le but. Ils doivent se sentir bien au temple, sans qu'on exige qu'ils donnent leur meilleur pour Dieu. Et nous voyons verset 14, il y a une coopération entre certains du peuple et les prêtres. Le peuple décide d'apporter une bête chétive et les prêtres décident de l'accepter. Donc les prêtres, ils aident les adorateurs à se sentir bien, quoi qu'ils trichent Dieu en lui apportant moins que le meilleur. C'est ce qui se passe dans les milliers d'églises aujourd'hui. On fait tout pour que l'adorateur se sente bien, malgré le fait qu'il ne s'est pas donné 100% à Dieu. Et il faut apprécier aussi le fait que la loi de Moïse a été donnée plus de 1000 ans auparavant. 1000 ans, c'est longtemps. Le monde a bien changé maintenant, à l'époque de Malachie. Après 1000 ans, on peut se permettre de changer des détails. On peut s'adapter à l'époque. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous prenons soin d'obéir à tout ce que Dieu, l'Éternel, dit à son Église? Nous avons vu des choses dans 1 Corinthiens qui sont difficiles à mettre en pratique. Alors, quelle est notre attitude envers ces choses? Est-ce qu'on dit, bon, c'est passé, j'espère qu'on ne va plus revenir sur ces choses? Il ne faut pas être trop méticuleux. Est-ce que nous prenons soin d'obéir à tout ce que Dieu l'Éternel dit à son Église? Donc, il parle d'un manque de respect, prouvé par un manque d'estime pour le culte, qui est démontré par ce manque de soumission aux ordonnances de l'Éternel. un manque de respect pour Dieu se démontre toujours par une légèreté face aux ordonnances de Dieu. On ne prend pas trop soin de ce que dit la Bible. Alors, quelle est l'attitude de Dieu envers ses adorateurs? Les adorateurs ont une attitude de mépris envers le Seigneur, ça on l'a vu, mais quelle est l'attitude du Seigneur envers les adorateurs? Regardez verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas le faire que de le faire à moitié. Il vaut mieux fermer les portes du temple que d'avoir ces sacrifices de cette façon. Je ne prends, il dit, aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Regardez verset 13. Vous dites, quelle fatigue! Et vous dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ceux qui dérobaient boiteux et infirmes, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Vous voyez, nous voyons que Dieu n'accepte pas leurs offrandes. Il dit que ceux qui font, ils le font en vain. Il serait mieux s'ils ne fassent aucun sacrifice. Mais c'est encore pire que cela. Hein. Regardez le premier mot du verset 14. C'est quoi? Maudit. Maudit, la personne qui s'engage volontairement dans une adoration à contre-cœur. Soit vous le faites comme il faut le faire, soit vous ne le faites pas du tout. Mais attention, ne pas le faire comme il faut, comme le fait de ne pas le faire du tout, vous met sous la malédiction de Dieu. Ça, c'est les mots de Dieu à son peuple dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, on peut dire, comme Michael a dit tout à l'heure, c'est l'Ancien Testament, hein? Mais, ça nous fait penser aux mots de Jésus à son Église dans le dernier livre du Nouveau Testament. Écoutez, je vais tout simplement vous les lire. Apocalypse 3, 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, pauvre, aveugle et nu. Alors on ne peut pas dire ça c'est l'Ancien Testament, Dieu n'est plus comme ça. Ce que je viens de lire vient de la dernière lettre écrite sous l'inspiration à une église chrétienne de notre ère. Et donc dans la lettre la plus récente qui existe encore de nos jours, Dieu dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voici l'attitude de Dieu envers ceux qui adorent à contre-cœur. Examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes de ce lot. Et puis troisièmement, quelle est la promesse que donne l'Éternel aux adorateurs? Quelle est la promesse? Il dit, c'est le verset 11, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, » il ne parle pas ici du matin au soir, hein, pense pas matin au soir, pense de l'est à l'ouest, c'est-à-dire géographiquement partout. « Mon nom est grand parmi les nations. » Alors ça dépend de votre traduction. Mais le verbe, ici, en fait, est ajouté. C'est le contexte qui décide le temps du verbe. Et je crois que ce serait mieux de mettre un verbe futur dans tous ces versets. C'est-à-dire, mon nom sera grand parmi les nations. Par exemple, où il dit, verset 14, « En tout lieu on brûle ou on brûlera de l'encens en l'honneur de mon nom. » Et l'on présentera des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations de l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom sera redoutable parmi les nations. Ce n'est pas le phénomène actuel à l'époque de Malachie, hein. Il n'y avait que quelques-uns qui adoraient le vrai Dieu, mais c'est une prophétie d'un jour que la connaissance du Seigneur va couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Tout le monde adorera un Dieu, tout genou, la Bible dit, fléchira, toute langue confessera que l'Éternel Jésus est le Seigneur. Et Dieu dit, vous me méprisez, parce que vous oubliez qu'un jour je régnerai sur toute la terre, et que la connaissance de l'Éternel sera répandue partout dans le monde. Alors pourquoi Pourquoi dans le monde est-ce que les gens font tout pour plaire au prince? Une petite tête. Mais on veut plaire au prince. Parce qu'un jour, on sait qu'il sera roi. N'est-ce pas? On a ça dans la tête. Et c'est un peu ce qu'il dit ici. Si on ne vit que pour le monde actuel, on regarde autour de nous, est-ce qu'on voit le règne de Dieu d'une façon visible? Non. On va certainement mépriser l'éternel si on pense que au temps maintenant. Mais si on vit pour le monde à venir, nous allons lui obéir coûte que coûte. Et Dieu leur dit ici, les nations païennes vont un jour m'adorer mieux que vous le faites maintenant. Quelle honte pour eux, mais dans l'autre sens, quelle grâce. Quelle grâce pour les nations. Parce que dans un sens, il parle de nous. Hein, c'est une grâce pour nous. Parce que nous, parmi les nations, un jour, nous adorerons le Seigneur comme il le désire. Alors, je termine sur la note la plus positive du message. C'est au verset 9. Malachie 1, verset 9, où il dit, « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. » Il leur invite de prier, demander la pitié de Dieu. Et ça, c'est le seul espoir. Si vous vous sentez convaincu de vos péchés, accablé, vous dites, c'est moi. Et qui ici adore Dieu d'un cœur pur et de tout son cœur? Eh bien, voici le seul espoir. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Nous pouvons nous repentir. Et Jésus, vous savez, promet le pardon, même à ceux qui adorent le Seigneur à contre-cœur. La Bible dit en psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. On a peut-être péché, mais nous pouvons venir devant Dieu avec un cœur brisé. Seigneur, c'est moi, aie pitié de moi. Ça me fait penser aux mots de Jésus. Je termine avec cette citation de Jean 4, 21-24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est à la recherche, à la demande d'adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors prions au Seigneur qu'il nous aide, pas à l'adorer à contre-cœur, mais à l'adorer en esprit et en vérité de tout notre cœur. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Et nous sommes indignes de pouvoir même prononcer ton nom. Mais dans ta grâce, tu daignes recevoir de nous la gloire qui est due à ton nom. Nous te remercions pour ce fait. Nous te demandons de nous rendre des adorateurs, des vrais adorateurs. Que notre Église soit une Église qui adore Dieu, pas à contre-cœur, mais de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Puissions-nous plaire à Dieu par notre repentance et notre foi en ton nom. Et nous te remercions pour le Sauveur que tu nous as donné, qui nous sauve de notre manque de respect et de crainte pour toi. Te remercions pour Jésus. Nous voulons que toute la gloire lui soit rendue aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci pour votre attention. Je vous demande de vous lever. Nous allons chanter ce cantique à Dieu.